1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9.
Are we on the air?
Oh, salut les PD!
Salut!
Ich will keine Schokolade! Ich will lieber einen Mann! Ich will einen, der mich küssen und um den Finger wickeln kann!
SLP, salut les PD, salut Ghislain.
Salut Philippe.
Comment vas-tu ?
Eh ben je vais bien.
Tu vas bien ? Tu es prêt pour reprendre les choses sérieuses ?
Ouais.
Ouais, non, pas, t'as pas l'air, mais bon.
Bah c'est bien quand on passe des disques.
Ouais, c'est bien aussi, on a fait une entrée de saison musicale, et puis là ce soir on s'empoigne un sujet qui nous tient à cœur. Mais voilà, plus sérieux, plus grave, mais utile, je pense.
Bah, disons que ce qui est utile, c'est de faire entendre un autre son de cloche.
Ouais.
Mm-hmm. Je trouve comme d'habitude.
Donc, thème du mois, pandémie et démocratie.
Ça calme.
Ça calme, oui, c'est vrai, ça calme un peu. On a déjà un peu évoqué le sujet, si je me souviens bien, au printemps dernier. Et notamment, il me semble bien qu'on a déjà diffusé des sons de... la personne qui va être un peu notre fil conducteur, notre fil rouge de tout ce mois, Barbara Stiegler, pour ne pas la nommer.
Ouais, qui est professeure à l'université de Bordeaux, c'est ça ?
Bordeaux-Montaigne, ouais, qui est philosophe et qui est maître de conférence là-bas. Elle a sorti un tract dans la collection Gallimard. En mars, je crois, de l'année dernière, de cette année, mars 2021. Je dis de l'année dernière parce qu'effectivement, on en a parlé la saison précédente, mais voilà, nous sommes toujours en 2021.
C'est compliqué, tous ces calendriers qui ne sont pas les mêmes.
Mm-hmm. De la démocratie en pandémie. Pandémie avec un P majuscule, comme si on parlait d'un continent. Un continent un peu... on va dire... Alors, ouais, moi je pense que c'est vraiment important qu'on parle de ce sujet-là, parce que mine de rien, moi je trouve qu'on est toujours dans une situation qui est confuse et même malaisante, et elle perdure, même si on ne parle pas autant du Covid qu'on a pu en parler, mais voilà, on est quand même... On reste quand même imprégné.
On reste imprégné et surtout, on a tous les reliquats en fait, de la période qu'on vient de vivre.
Oui, oui, qui conditionnent encore.
Qui sont encore là vies. Et qui sont faits pour endurer un peu, quoi, malheureusement.
D'ailleurs, à l'heure où l'on parle, on ne sait pas. On ne sait pas si effectivement le pass sanitaire est reconduit ou pas.
Jusqu'à l'été. Le gouvernement demande la possibilité de le faire.
D'accord, ok. Premier son. Que je te propose, Barbara Stiegler, en fait, a traduit un éditorial du Lancet. Le Lancet, ce fameux journal scientifique, qui, donc c'est Richard Horton, le patron de cette revue scientifique, qui a postulé que finalement, on n'était pas dans une pandémie, mais une syndémie. Donc, bon, je vais pas développer plus que ça. C'est pas vraiment une épidémie de syndicats, mais je te propose qu'on écoute justement Barbara Stiegler qui nous décrypte tout ça.
Le trait, j'ai décidé d'ouvrir sur cette déclaration un peu déstabilisante. Déstabilisante pour tout lecteur, à commencer par pour moi, hein, puisque moi, comme tout le monde, hein, j'utilise les mots que tout le monde utilise et j'ai parlé pendant des mois de pandémie. Aujourd'hui, j'ai plus de mal, après avoir lu de très près, après avoir traduit cet éditorial et l'avoir lu de près, j'ai plus de mal à parler de pandémie parce qu'effectivement, l'hypothèse de Horton, je rappelle que c'est une hypothèse et je rappelle qu'en science, nous fonctionnons par hypothèse. Ce qui ne veut pas dire que tout se vaut et qu'on peut dire n'importe quoi, loin de là. Mais on a des démarches fondées sur des hypothèses qu'on va soutenir collectivement, et on va choisir entre des hypothèses concurrentes, les hypothèses les plus robustes, quitte à devoir les réajuster ensuite. C'est comme ça que fonctionne la science. Donc l'hypothèse de Horton, qui est très étayée, et qui, à mon avis, est de plus en plus partagée, c'est que parler de pandémie, ça pose problème, parce que le terme a une polysémie qui peut induire en erreur, et qui a d'ailleurs induit en erreur, d'après lui, il a une thèse très très forte, qui a induit en erreur beaucoup de gouvernants. Alors, la polysémie du terme de pandémie, rapidement, on pourrait en parler très longtemps, mais on peut avoir un sens très minimaliste à la notion de pandémie, on peut lui attribuer un sens très minimaliste, et à ce moment-là, le Covid-19 est facilement qualifiable de pandémie. Donc le sens minimaliste serait qu'il s'agit d'une épidémie à diffusion mondiale qui couvre différents continents au même moment. Très bien. Si c'est ça, oui, le Covid-19 est une pandémie. Mais on peut avoir une approche plus vaste et dire que la pandémie, ça génère l'idée que nous sommes tous, que tout en fait, les vivants, humains, pan en grec, tout, sommes face à cette menace complètement à égalité en quelque sorte. Nous sommes tous menacés de mort par la chose, et à partir de là, évidemment, on n'est plus dans le même monde. On est dans un monde qui vit une catastrophe où tous sommes menacés. Voilà. Alors, on a connu ça dans notre histoire contemporaine avec le sida, hein, où toute personne qui avait une sexualité ou qui avait des échanges intimes, parce que pendant longtemps, on n'a pas su très bien par quel vecteur se transmettait le sida, je le rappelle, hein, donc il y avait juste une proximité corporelle. Donc, enfin, du coup, c'était assez universel. Tout le monde était menacé de mort. Et puis, on a eu cela, bien entendu, dans nos souvenirs, hein, de la peste, par exemple. Hein. Donc, si le Covid-19, c'est ça, évidemment, ce n'est pas les mêmes mesures qui vont être prises. Pour Horton, c'est pas une pandémie en ce sens-là, c'est une épidémie à diffusion mondiale, mais qu'il propose d'appeler, en reprenant cette catégorie à l'anthropologie de la santé, une syndémie. C'est en réalité une maladie qui est très compliquée et qui est multifactorielle, et l'un des facteurs aggravants qui permet en fait à cette épidémie de devenir très problématique et de mettre en péril les systèmes sanitaires, c'est en réalité l'état de santé des populations. Si les populations sont déjà affaiblies parce qu'elles sont affaiblies par des polypathologies chroniques ou simplement par des maladies chroniques plus généralement, à partir de là, si on a des populations dont l'organisme est déjà affaibli, bien sûr, l'épidémie va être très compliquée à prendre en charge parce qu'il va y avoir une flambée. Le virus va devenir maladie. Le SARS-CoV-2 devient Covid-19, maladie, et non plus simplement virus. Parce que le virus en lui-même, s'il traverse un organisme sain, à part dans des cas très, très, très rares, il ne va pas compliquer la vie à cet organisme. Donc à partir de là, on voit bien que le virus vient révéler en fait l'état de santé des populations, et en particulier quant aux maladies chroniques. Comme les maladies chroniques sont un immense problème de santé publique mondiale, l'OMS et les grands organismes sanitaires internationaux ne cessent d'alerter les pouvoirs publics sur ce problème, et bien évidemment, le cocktail des deux, ce virus plus les maladies chroniques préexistantes, évidemment, va permettre de faire voir des zones où il y a plus, ou des âges, des générations, où il y a plus de maladies chroniques. Donc ça, c'est un premier point. Il y a aussi celui du vieillissement, un vieillissement qui ne se fait pas dans de bonnes conditions, un vieillissement en mauvaise santé, parce qu'on peut très bien avoir un vieillissement en bonne santé, mais un vieillissement en mauvaise santé qui va donc accroître la fragilité immunitaire des organismes des personnes âgées. Et puis enfin, un troisième point, on pourrait même en ajouter un quatrième, un troisième point qui est l'état d'information des populations. C'est-à-dire que si les populations sont très peu informées, si elles ne bénéficient pas de ce qu'on appelle en santé publique une certaine littératie, une capacité à s'approprier les informations, à les comprendre correctement et à les appliquer pour soi-même et avec les autres de manière pertinente, ben évidemment, les gens ne comprennent pas. Il est évident qu'il y a énormément de gens, par exemple, qui souffrent d'obésité, qui sont donc à risque et qui ne le savent toujours pas aujourd'hui, puisque s'ils écoutent les médias, ils entendent parler des personnes âgées. Donc s'ils ont 20 ans ou 30 ans, ils ne peuvent même pas s'imaginer être à risque. Donc, vous voyez, donc ça, c'est un troisième point qui dit quelque chose, en fait, de l'état des populations sur le plan, cette fois, de l'éducation, de l'accès à l'information. Il y a, j'en étais à trois, il y a un quatrième point qui est l'accès aux services de santé. L'accès aux services de santé, c'est-à-dire que c'est sûr que si je me trouve dans une banlieue reculée, où avoir une simple consultation médicale avec un généraliste est extrêmement compliqué parce que c'est un désert médical, évidemment je vais avoir le plus grand mal à détecter les premiers signes, à avoir les bons gestes, à comprendre qu'il faudrait peut-être que je me soucie de mon état, parce que là je suis peut-être dans un état où je devrais prendre des corticoïdes ou me soucier de mon oxygénation. Toutes ces choses-là, évidemment, quand on est dans un désert médical, eh bien, évidemment, on ne peut pas y avoir accès. Donc ça, c'est un facteur aggravant. Et enfin, bien sûr, le système hospitalier d'urgence, hein, le stade de la réanimation. Si le système hospitalier a été détruit ou n'a jamais été mis en place par les pays, ce qui, vous le savez, malheureusement est le cas à la fois dans les pays pauvres et aujourd'hui dans les pays riches, et bien évidemment, c'est un révélateur d'une crise hospitalière dont les conséquences sont catastrophiques. Donc voilà, le virus va traverser le SARS-CoV-2, donc va traverser des espaces qui seront plus ou moins bien lotis par rapport à tous ces facteurs, et évidemment ça va nous permettre d'avoir une carte géographique incroyablement instructive sur l'état de détérioration des populations du point de vue de la santé, de l'éducation et de la prise en charge par les services publics.
Oui, c'est ça. Cette fonction révélatrice dont vous dites que finalement on a mis longtemps à la comprendre, à l'admettre, et que l'idée de la pandémie, perçue sur, comme vous l'avez dit, sur une sorte de modélisation finalement un peu erronée, qui est en gros le modèle des grandes pandémies type peste, a complètement recouvert le côté extrêmement fin de ce que ça révélait véritablement, qui était que finalement les sociétés, et entre autres les sociétés dites développées dans lesquelles nous vivons, ne sont pas du tout dans l'état dans lequel on pensait ou on disait qu'elles étaient, mais au contraire, on avait d'un côté affaire à des gens qui étaient finalement beaucoup plus malades, mais massivement malades qu'on ne le pensait,
tout à fait,
et avec un effet ciseau, de l'autre côté, avec un système hospitalier qui, lui, était dans un état de délabrement, si on peut employer ce mot-là, plus avancé que ce qu'on voulait bien dire. Donc c'est vraiment, il y a vraiment une fonction révélatrice.
Absolument.
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 Oui, bien sûr. C'est super intéressant.
Oui, je trouve, oui. Hein.
Ce point de vue-là sur ce que ça vient révéler, ce que ça vient titiller, ce que ça dit de nous.
Mm-hmm. Je précise juste, ce qu'on vient d'écouter, c'est extrait d'une longue interview faite par la librairie Mola à Bordeaux. C'est une heure en compagnie donc, de Barbara Stiegler. Elle a été faite, cette interview, à la sortie de ce fameux tract qu'on évoque aujourd'hui. Ouais, c'est passionnant. Et puis surtout, moi je trouve qu'elle parle de tout ça avec une grande clarté, un recul et une grande clarté. Et du coup, ça permet quand même de mieux comprendre ce qui est en jeu, quoi.
Oui, oui, oui. Et en plus, ce qui est intéressant, c'est son point de vue sur la maladie.
Ouais.
C'est-à-dire, c'est pas parce que t'as un virus que tu deviens malade,
ouais,
c'est parce que ton organisme est affaibli, parce qu'il y a un déséquilibre, parce qu'il y a des choses comme ça, que tout à coup tu vas ouvrir la porte à la maladie. Je trouve que c'est intéressant parce que c'est pas du tout la façon habituelle de présenter les choses.
Ouais, exactement. Bon, elle en parle en connaissance de cause, hein, parce qu'elle est responsable depuis un certain nombre d'années d'un master à Bordeaux qui s'intitule Soins, éthique et santé. Donc c'est des questions qu'elle connaît qui l'intéresse depuis très très longtemps et sur lesquelles elle a une vraie matière, hein, pour travailler.
Oui.
Petite pause musicale qui devrait te faire plaisir, Ghislain.
Salziger Schweiß, Bewegungen der Seelen, hier spielen sie kraftvolle Musik. Warum nicht tanzen kommen? Es ist ganz natürlich. Komm, tanzen, komm, tanzen, komm, tanzen.
Public Service Broadcasting Let's Dance. Ça, c'est le titre en anglais, mais t'as entendu quand même.
Ouais, c'est de l'allemand. Je suis pas fan de cette langue, mais je trouve ça éclatant s'éclater sur de l'allemand.
Il y a pas longtemps, tu m'as dit que c'était bien de danser sur de l'allemand.
Ouais, voilà, parce que c'est tellement étrange que... Ok.
On retrouve Barbara Stiegler. Là, ce que je vais te faire entendre, c'est plus... on va dire qu'elle elle évoque comment les politiques se sont emparés de ces questions évoquées autour de la crise sanitaire, les politiques et aussi comment les médias ont pris le relais du politique sous une forme qu'on peut clairement appeler presque de l'abus de pouvoir.
Ouais, d'accord, ok. Ouais. Ok. C'est, en fait, par rapport, juste un petit truc par rapport à ce qu'on a écouté juste avant, ce qui est intéressant, je trouve, dans son point de vue, c'est que les politiques publiques de santé qui vont découler de ce point de vue-là, de cette analyse-là, sont totalement différentes de celles qui sont mises en place actuellement.
Mais tout à fait.
C'est-à-dire, on va s'intéresser à autre chose. Ouais. Tu vois, on va essayer de trouver pourquoi il y a ces organismes qui sont affaiblis. Et du coup, ça va rejaillir sur plein de trucs. L'alimentation et tout ça. Le mode de vie, l'hygiène de vie, enfin bon.
C'est vraiment les questions sur lesquelles elle essaye effectivement d'avancer, mais apparemment c'est très compliqué, quoi.
Bah oui, j'imagine bien. C'est tout ce que nous on a intuité pendant le premier confinement, le monde d'après, tu vois. C'était cette révolution-là, en fait.
Eh ben, on parle pas de Barbara Stiegler par hasard non plus, hein. Ouais.
Comment est-ce que vous expliquez cette contradiction? On a plutôt le sentiment d'avoir eu affaire justement à entendre des gens qu'on n'entendait pas forcément trop, avoir aussi eu quand même des discours de vulgarisation scientifique nous expliquant ce que c'était qu'un virus, comment ça, ce que c'était qu'une zoonose, enfin tout le monde est devenu, on a appris plein de mots pendant cette année, et alors que la lecture finale que vous en faites est de dire non, c'est-à-dire qu'il y a quelque chose, que ça ne s'est pas fonctionné. Selon l'apparence que ça a pris. En fait, on a le sentiment qu'il y avait du savoir partout et que les décisions étaient prises sur des critères scientifiques, et la présentation que vous en faites dans De la démocratie en pandémie, c'est vrai que c'est, non, ça ne s'est pas véritablement passé comme ça.
Oui, alors votre question est double, elle porte à la fois sur le pouvoir politique d'un côté et ce que j'appellerais le pouvoir médiatique de l'autre, puisque c'est un pouvoir également. Alors, pour ce qui est du pouvoir politique, effectivement, si on connaît pas la manière dont notre République est structurée autour de ces questions de santé publique, et a priori on n'est pas très au courant, donc voilà, on se dit, bah écoutez, on a un président de la République qui immédiatement réunit un conseil scientifique, etc. C'est plutôt effectivement rassurant. La réalité est tout autre. La réalité, c'est que en fait, nous avons toute une série d'organismes. Avec de l'expertise. Alors, qu'est-ce qu'un expert ? Je le rappelle quand même. Un expert, c'est pas exactement un scientifique, et un scientifique, c'est pas exactement un expert. Un scientifique, bon, c'est quelqu'un qui travaille dans un champ de recherche, qui est reconnu comme tel par sa corporation ou par ses collègues, et qui a donc qui a fourni en fait toutes les garanties pour être reconnu comme scientifique. Et il peut être parfois appelé comme expert. C'est-à-dire comme quelqu'un qui va donner en fait des conseils à la décision dans des champs qui relèvent des décideurs en fait, hein, quel qu'il soit, politique ou autre. Donc nous avons en fait en France plus d'une dizaine d'organismes qui sont financés par notre République, dans lequel travaillent des scientifiques qui prennent effectivement la fonction d'experts pour éclairer les décisions publiques. De manière complètement sidérante, tout ce savoir, toutes ces pratiques, tout ce savoir-faire a été mis de côté violemment par le pouvoir en place, et en l'occurrence très clairement par le président de la République, qui a balayé tout ça, qui a considéré que ça ne l'intéressait pas, et qui a fabriqué un conseil scientifique à sa main. Donc il a téléphoné à quelques personnes, il y a eu un système de cooptation, et on a découvert, les gens avec lesquels je travaille, qui sont certains des experts en santé publique extrêmement expérimentés, ont découvert en fait que certains de leurs collègues qu'ils connaissaient, qui n'avaient malheureusement aucune qualification en santé publique, sont retrouvés au conseil scientifique. Alors évidemment, ça interroge. Très rapidement, le conseil scientifique, et en particulier Monsieur Delfrécy. On le voit aujourd'hui, hein, il contre très régulièrement dans les médias les propos d'Emmanuel Macron, ceux d'Olivier Véran, se sont sentis instrumentalisés. Dès le début des élections municipales, hein, où on leur a collé sur le dos que c'était eux qui avaient décidé cette folie. Alors évidemment, ça a commencé à aller très mal très très vite, forcément, puisqu'il y avait une dimension d'instrumentalisation. Ils s'en sont assez vite rendus compte. Au passage, c'était assez naïf, hein, de s'imaginer qu'ils allaient pouvoir avoir un pouvoir libre, etc., quand on vient doubler comme ça des institutions qui existent. Il y a quelque chose là qui est pas correct, hein, c'est pas vraiment corporate, et puis surtout c'est pas très républicain, parce que la République, elle existe, elle a l'avantage de la continuité de ce qu'on appelle les institutions, et ces petits comités qu'on fait ad hoc, qu'on fait au dernier moment pour faire des petits coups à la petite semaine, c'est quand même pas très sérieux. Donc moi j'ai été très étonnée, hein, du manque au niveau des médias, du manque de vigilance par rapport à ça. Quand le président de la République s'est fait son propre service de sécurité dès les premiers jours de son arrivée à l'Élysée avec Alexandre Benalla, ça a à juste titre choqué tout le monde. Là, ça n'a choqué personne. C'est un signe à part les milieux que je connais, c'est quand même un signe de manque de vigilance de nous tous, hein, citoyens. Donc là, il y a eu ce premier moment. Ensuite, le président de la République, ayant des problèmes avec ce conseil, a créé un deuxième conseil, le conseil CARE, qui aujourd'hui n'est même plus activé. Et ensuite, il est passé sur un autre fonctionnement, qui est le conseil de défense. Il a détourné le conseil de défense, qui normalement est prévu pour des affaires militaires, vers le sanitaire pour obtenir le secret et pour obliger ceux qui participent à se taire. Bon. Écoutez, il y a quand même quelque chose qui ne va pas. Donc, il est clair qu'il y a une instrumentalisation du savoir scientifique, et ce savoir scientifique a été en fait un bricolage. On utilisait tel ou tel chiffre, telle ou telle donnée chiffrée opportunément pour faire entendre ceci ou faire entendre cela à la population. Ce savoir, entre guillemets, scientifique, il a été transformé, je vous le rappelle, en doctrine. C'était le terme qui a un petit peu disparu là, de ces derniers mois, semaines, de, quand même le terme extrêmement effrayant de doctrine sanitaire, avec parfois l'idée qu'on se demandait si on n'était pas dans des instances type doctrine de la foi. Donc, y a un moment où, quand on connaît l'histoire des sciences et quand on connaît leur allergie tout à fait normale au tribunal d'inquisition, on est un petit peu effrayé par la notion de doctrine. Donc on a fait comme si la science, c'était en fait des espèces de données comme ça, qui tombaient du ciel, du cerveau d'hommes ou de femmes extrêmement éclairés, tout seuls, comme ça, et que c'était, y avait une doctrine, il y avait le vrai d'un côté, le faux de l'autre. Évidemment, ça ne marche pas comme ça. Ça suppose la science, des méthodes, un travail collectif, de l'intelligence collective, une dimension expérimentale, du réajustement, etc. Donc ça, c'était pour la part, du pouvoir politique. Quant au travail médiatique, alors bien sûr, on ne saluera jamais assez tous les courageux qui, dans les médias, étaient effrayés de la manière dont les choses se passaient et qui ont essayé de faire entendre autre chose, d'autres voix, des questions, hein, parce que c'est quand même le but, hein, de l'espace médiatique, que de permettre le débat, le questionnement, l'attitude de recherche, etc. Mais malheureusement, très vite, ça n'aura échappé à personne, l'espace médiatique est devenu un espace en fait totalement manichéen, où il y avait d'un côté ceux qui savent et qui disent le bien, mais vraiment avec un B majuscule, et puis les ignares, les irrationnels, qui sont du côté du mal, avec un M, du mal avec un M majuscule. Et c'est sûr que c'est la manière dont les choses se sont structurées a complètement paralysé les cerveaux et a rendu tout questionnement impossible. Et du même coup, beaucoup de scientifiques, d'intellectuels ont décidé de se taire parce qu'ils avaient très très peur en fait de parler. Et au moment où plus que jamais dans toute notre histoire collective récente, on avait besoin de discuter de science, de discuter de médecine, de discuter de santé publique, de discuter de démocratie, etc., à ce moment-là, il y a eu un immense silence dans mon milieu qui, pour moi, a été profondément douloureux. Je n'ai pas pu supporter que toutes les voix autour de moi se taisent. Et en réalité, j'imagine que ce n'est pas seulement mon cas, mais en réalité, la conversation, on l'a maintenue au téléphone, essentiellement, en se téléphonant, quand on pouvait, en se voyant, par petits groupes. Et je me suis dit, cette conversation, qui appartient, qui est dans une démarche de conversation scientifique, même si ce n'est pas toujours des gens hyper spécialisés. Cette conversation, il faut qu'on en rende compte. Et ce tract a cherché à faire entendre cette voix-là. Et je suis convaincue qu'un peu partout, dans tous les pays, il y a eu comme ça des groupes de gens qui, de manière informelle, ont essayé de réfléchir collectivement. Mais il leur a été très difficile de parler.
Il nous reste 2 minutes.
Ben, moi, je trouve ça effrayant, ce qu'elle raconte. Mmh. Le monde qu'elle décrit
c'est le nôtre, hein,
Gisèle. Effrayant. Ben, je sais, mais c'est d'autant plus effrayant. Mmh.
Mais, sauf qu'effectivement, c'est d'autant plus effrayant qu'elle elle le fait émerger. Même si on en a plus ou moins conscience, là, elle met des mots et d'une clarté absolue. Mmh. Et ce monde... qui est dans lequel on vit, mais voilà, j'ai évoqué la confusion dans laquelle on était en début d'émission, mais c'est véritablement ça. Et par contre, quand on a une parole comme la sienne qui porte, qui fait émerger plus clairement le monde dans lequel on est, oui, je comprends que ta réaction, ouais, il y a un petit côté effrayant, quoi. Parce que du coup, comment on récupère, sinon le pouvoir, du moins, comment on fait contre-pouvoir par rapport à tout ce qui se met en place, c'est des vraies questions, quoi. On va continuer à évoquer lors des prochaines émissions, parce que là, on est presque au bout, mais y a un petit côté flippant, on est d'accord.
Ouais, totalement flippant, ouais.
Bon, on se retrouve la semaine prochaine.
Avec Barbara encore.
Entre autres, ouais, tout à fait. Allez, ciao.